Bonjour à tous. Une table ronde, un thème d'actualité, l'Europe, et pour en débattre, des voix qui ne vous sont pas inconnues. Celle de Pauline d'abord, qui a couvert le forum Libé avec conférence et fait partie de Transistor.
Oui, bonjour tout le monde.
Celle de Louis également, qui s'occupe notamment de la mission Des murs et des oreilles avec Alice.
Bonsoir à tous.
Celle d'Antoine, que les fidèles auditeurs de Présidence ont reconnu.
Bonsoir.
Et enfin, celle de Thibaut, qui, en plus d'être chef du pôle actu et politique, monseigneur, subit cette année la dure vie d'un agrégatif.
Bonjour.
D'ailleurs, c'est un peu une séance de révision qu'on te propose, parce que cette année, au programme des agrégatifs de Géo, c'est l'Europe.
L'Europe, exactement. Mais bon, la disserte est passée, alors ça fait un petit entretien de mémoire.
D'accord. Alors, magie de la radio, nous pourrions vous faire croire que nous enregistrons, comme c'était prévu, sous les dorures du salon du consulat de l'hôtel de ville. Bon, en fait, c'est un peu moins classe. On est dans le studio mobile, dans le bureau de Transistor, mais bon, on s'en contentera. Et de toute façon, dans le salon du consulat, on y était bien les 25, 26 et 27 novembre dernier pour couvrir le Forum Libération, dont la programmation était construite autour de la thématique des nouvelles frontières. Parmi les frontières, au centre de l'actualité, celle de l'Europe. Et c'est la question de l'intégrité de la zone euro, de la cohésion de l'Union européenne et de l'existence même de l'Europe qui a été évoquée. Et si l'Europe n'était plus qu'un beau rêve? Le titre d'une conférence exprimait bien les doutes et les angoisses actuelles autour du vieux continent. L'Européen existe-t-il? C'est le titre de cette conférence avec Philippe Kella, président d'Euronews, et Paolo Garimberti, président de la RAI. Philippe Kella, qui a d'ailleurs accepté de répondre à notre micro après la conférence, et l'interview est disponible sur le site internet, rappelait des chiffres significatifs. 90% des Européens se disent d'abord allemands, français, estoniens ou danois, et ensuite européens. Ils ne sont que 10% à se sentir d'abord européens, puis nationaux, et seulement 3% se sentent uniquement européens. Alors, petit sondage autour de la table. Dans quelle partie vous vous situez? Plutôt dans les 90% qui se sentent d'abord français ou dans les 10% qui se sentent européens avant tout?
Difficile de répondre. Je dirais que c'est 50-50.
Instinctivement, je dirais d'abord français. Ça n'empêche pas de considérer que l'Europe a une certaine importance, ce qui n'est peut-être pas le cas de tout le monde.
Moi, définitivement, je répondrais européen, donc les 10%.
Moi, plutôt 50-50 aussi, en fait. Je suis pas particulièrement... nationaliste, mais je pense que je me mentirais si je disais que j'étais d'abord européen quand même. Donc je pense à peu près 50-50.
50-50. Alors Louis, toi t'as dit d'abord européen. Qu'est-ce qui fait que tu te sens comme ça d'abord européen? Comment tu pourrais essayer de l'expliquer? Ou quelles sont les valeurs pour toi qui priment?
Les valeurs qui priment, je l'appréhende pas tant en termes de valeurs qu'en termes d'un contenu culturel auquel éventuellement on peut avoir accès. D'autre part, une certaine mobilité à laquelle, encore une fois, on a accès, et peut-être qu'on y reviendra, mais je pense qu'en fait, ces 10%-là ne sont pas non plus neutres socialement. Et je pense que c'est une question aussi de proximité à une certaine mobilité, à une certaine ouverture, à une certaine éducation à l'Europe, à l'idée d'Europe, et à la culture européenne.
Mais je ne trouve pas que ce soit contradictoire avec cette idée de se dire d'abord citoyen de son pays. Moi, pour l'avoir vécu, par exemple, en Roumanie, en Erasmus l'an dernier, il était bien clair que, quand je discutais avec des Roumains, qu'ils étaient Roumains, que j'étais Français. On s'entendait très bien, il y avait des discussions sur l'Europe, sur leur pays, et j'avais pas l'impression qu'il y avait une opposition entre le fait d'être Roumain, d'être Français, d'être Espagnol ou Italien, et en même temps Européen. Poser la question comme ça, ça suggère effectivement, Antoine a prononcé le terme de nationalisme, que si on se dit d'abord de son pays, on est nationaliste et qu'on refuse l'idée d'Europe. Je pense que c'est pas du tout le cas, et quitte à dire quelque chose d'un peu bateau, uni dans la diversité, ça veut aussi dire ça, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs appartenances sans que voilà, le fait d'être national prime sur le fait d'être européen.
Tout à fait. Moi, ce que je voulais souligner, en fait, c'est plutôt... je pense qu'il y a une certaine évolution, en fait, et que ces 10% sont amenés à augmenter sensiblement au cours des années. Pour ne pas citer un président de la République, disait que la France était notre patrie et l'Europe notre avenir. Et je pense qu'effectivement, là-dedans, il y a quelque chose de vrai, à savoir que l'ouverture des frontières, l'ouverture globalement des esprits à l'espace européen, est vraiment un processus en cours et dont on peut attendre beaucoup. Et c'est peut-être pour ça aussi que je me dis d'abord européen, parce que je pense que ça correspond quand même à un sens de notre époque.
Moi, j'ajouterais finalement, peut-être pour mettre en lumière un autre point, que faire toutes ces remarques et poser la question, c'est aussi présupposer que notre identité peut être fractionnable. L'idée selon laquelle on serait à 50% ou à 10% européen ou national, en fait, c'est finalement dire que notre identité peut être d'un côté européen, mais qu'elle ne peut pas être, par exemple, européenne et française à la fois, alors qu'en fait, peut-être que l'important, ce n'est pas se dire 50% européen, 50% français, mais se dire qu'on est 100% européen et 100% français. Et finalement, que l'identité, elle est le mélange et non pas la somme de deux identités qui seraient différentes. L'identité, c'est justement la synthèse.
Tout à fait, je suis assez d'accord. Ceci dit, je pense que ce que tu dis, en fait, ça révèle encore un petit peu une fois de ce que je disais. Pour citer un exemple, moi, quelque chose qui me frappe, c'est l'espèce d'engouement et de patriotisme qui ressort dans ces messes nationales et populaires que sont les matchs de foot. Et là, j'ai quand même malgré tout un peu de mal à imaginer qu'il n'y a pas une hiérarchie quand même dans effectivement le sentiment d'appartenance d'une grande majorité de la population que je ne critique pas, mais qui, je pense, est quelque part située.
C'est vrai qu'il y a peut-être un biais qui fait que nous sommes français et que par conséquent, nous faisons partie d'un des grands pays fondateurs. Et que finalement, être européen de l'Ouest et être français, c'est peut-être assez semblable. Par contre, il y a peut-être une plus grande différence entre le fait d'être roumain, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, et d'être européen. Et si on continue sur l'exemple de la Roumanie, c'est vrai que les Roumains font beaucoup d'efforts pour s'intégrer à l'Europe, dans leur manière de faire, dans leur manière d'appréhender les choses. Et peut-être que nous, nous disons européens, mais que nous ne changeons pas. Nous ne changeons pas assez pour faire mélanger encore plus cette culture européenne et s'ouvrir aux influences orientales. Disons.
Alors, européen de deux façons différentes, le roumain ou le français, mais il y a quand même un européen qui existe et qui partage des valeurs. Alors, si on fait un petit tour de table comme ça, c'est quoi la première valeur européenne ou le premier ciment de l'identité européenne qui vous vient comme ça tout de suite à l'esprit ?
Moi, je dirais l'historicité.
Un vœu pieux, la solidarité.
Un vœu pieux, effectivement.
Je pense qu'aujourd'hui, il serait assez malvenu de dire que c'est l'économie, il serait aussi malvenu de dire que c'est la politique. Je pense que c'est peut-être la dimension culturelle, justement, qui donne un sens à l'Europe.
Ça dépend, si on parle de la valeur qu'on...
J'avais dit la première chose qui vient par la tête.
Oui, mais je veux dire, moi, ce qui vient par la tête, la première valeur qui vient par la tête pour l'Europe, c'est le libre-échange, par exemple. Mais c'est une valeur... C'est pas forcément une valeur, c'est quelque chose qui, à mon avis, a cimenté l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Mais c'est pas forcément la valeur que nous, on veut voir et que nous, on veut retenir.
Alors, on parle de valeurs, que ce soit l'histoire, la culture, le libre-échange, etc., de références, et donc de l'Europe comme identité, comme représentation. Et ça rejoint une conférence à laquelle tu as assisté, Louis, qui avait pour titre « La culture peut-elle donner un sens à l'Europe ?» Donc peut-être que ta réponse n'est pas étrangère avec cette participation à cette conférence. Et parmi les intervenants, il y avait Umberto Eco et Frédéric Mitterrand. Alors juste avant de te laisser un peu la parole pour que tu nous racontes un petit peu ce qui s'est dit dans cette conférence et que tu nous donnes des pistes, je veux vous dire qu'après la conférence, j'ai vu Umberto Eco dans le salon des invités et qu'apparemment la séance a été assez éprouvante pour lui puisqu'il était donc après manger sur un fauteuil rouge du salon des invités. Un cigare à la bouche et complètement endormi sur son fauteuil avec juste son attaché de presse qui veillait comme une maman sur Umberto Eco. Alors c'est vrai que ça a dû être assez éprouvant pour lui cette conférence parce qu'apparemment notre ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, qui participait donc à cette conférence, n'a pas vraiment montré qu'il était le plus compétent des ministres de la Culture et qu'il était bien plus compétent quand il s'est laissé de dire bonsoir avec un ton à la voix nasillarde sur certaines radios, n'est-ce pas, Louis ?
J'irai peut-être pas jusque-là. Peut-être, moi, il me semble que le défaut de cette conférence est d'avoir en fait rassemblé deux discours qui ne pouvaient pas se rencontrer, et certainement pas en une heure et demie. C'est-à-dire un discours politique et un discours de professeur. Voilà, et qui ne pouvaient pas se rencontrer, je dis bien, en une heure et demie de conférence. Donc, effectivement, il ne m'étonne pas tellement que Umberto Eco ait été fatigué à la sortie de la conférence, puisque c'est d'abord Frédéric Mitterrand qui a parlé, en des termes, comme je le disais, très, très politiques, en fait, et qui, je cite, a dit « Pourquoi aujourd'hui vouloir donner toujours un sens à tout ?» Bon, ce qui m'a un petit peu étonné, enfin, voilà, ça me paraissait pas spécialement intuitif comme, comme idée.
Et, il parlait de l'Europe ?
Non, non, non. Globalement, c'était une remarque. Puisque le sujet a été « La culture peut-elle donner un sens à l'Europe ?», il disait « Voilà, c'est une obsession aujourd'hui de vouloir donner du sens. » Or, ça me paraît effectivement être une obsession relativement légitime.
C'est comme tous les élèves du secondaire, il définit les termes du sujet dans l'introduction, tu comprends ça.
Tout à fait. Et donc, lui a décidé de définir le sens, S-E-N-S, comme les cinq sens. C'est la seule manière, a-t-il dit, dont il pouvait envisager cette question. Ce qui l'a amené à nous faire un petit développement sur la gastronomie européenne, qui me semblait être particulièrement hors sujet, suite à quoi il a dit...
Oh ben non, pourquoi ?
Oui, ça fait partie de la culture.
C'est quand même un spécialiste de gastronomie.
Oui, mais j'ai assisté à la conférence via vidéo, là, en direct, par Internet.
Ça, c'est la classe, le progrès.
Et je dirais que oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, cette idée selon laquelle il n'est pas besoin de donner du sens à tout pour comprendre et pour s'intéresser est problématique, surtout quand on s'inquiète à une question aussi épineuse et essentielle que l'Europe et le sentiment finalement d'être européen et même à l'idée même de culture. Mais ce qui est intéressant par rapport à son développement gastronomique, et peut-être qu'il n'est pas allé assez loin dans ce qu'il voulait dire, et quand il a évoqué finalement cette idée des cinq sens et d'une sorte de sensualité, ce qui m'a paru intéressant, c'était aussi l'idée selon laquelle donner du sens n'est pas forcément vouloir tout rationaliser. L'idée selon laquelle donner du sens, ce n'est pas forcément intellectualiser, mais c'est aussi justement, tu disais tout à l'heure, il n'a pas été très intuitif, c'est aussi justement s'en remettre un petit peu à une forme d'intuition et de caractère tout simplement sensuel des objets et des thématiques abordées ou des sujets. Et il est vrai que finalement, est-ce que l'Europe, à force de vouloir se rationaliser, rentrer dans des cadres, dans des catégories, et quand on dit l'Européen, existe-t-il encore ou existe-t-il tout court, est-ce que ce n'est pas vouloir justement le mettre dans un cadre et le définir et par là le limiter et au contraire, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt s'en remettre à une invitation de nos sens, et c'est-à-dire de nos intuitions, du sentiment tout simplement, ou de nos émotions. Est-ce que être européen, ce n'est pas d'abord une émotion, cette sorte de ressenti qui ne s'explique pas.
D'accord. Moi je l'avais pas compris comme ça, effectivement. Je pense pas que donner du sens voulait forcément.
Enfin, je pense pas qu'il ait voulu dire ça de toute façon.
Bien sûr. Je pense que.
Non, c'est bête parce que tu le sauvais. J'y croyais presque. Et là, tu le tues. Mais alors, c'est.
Je pense que donner un sens, c'est pas forcément chercher à donner une signification, ça peut être donner une orientation, et c'est justement ce que Umberto Eco me semble avoir fait avec une grande pertinence. Frédéric Mitterrand a fini en fait son discours, d'ailleurs, je dis, sa parole d'introduction en disant qu'il admirait tant Umberto Eco qu'il préférait lui laisser la parole et que certainement Umberto Eco avait beaucoup plus de choses à dire que lui. Sur ces entrefaits, Umberto Eco a pris la parole et a adressé un historique justement de la manière dont la culture a donné un sens à l'Europe et donne toujours un sens à l'Europe en allant chercher des racines assez lointaines, comme je le disais tout à l'heure, nous lisant des passages de littérature européenne, etc. Et Umberto Eco, pour le côté plus anecdotique, a pris la parole pendant 40 minutes. Et au bout d'un moment, le modérateur a dit « Monsieur Eco, je vous rappelle que c'est un débat. Peut-être redonner la parole à Frédéric Mitterrand. » Ce à quoi Umberto Eco a répondu « Mais il a dit qu'il n'avait rien à dire. Alors moi, j'ai le croche-choir, je parle. Voilà. » Et donc, globalement, l'intérêt de la conférence, me semble-t-il, était vraiment dans cet exposé très professoral d'Umberto Eco, qui faisait une espèce de synthèse donc de tout ce qui pouvait avoir donné un sens à l'Europe, au sens d'une orientation, et jusqu'à aujourd'hui, finalement, la manière dont les échanges, les enrichissements réciproques des différentes parties de l'Europe ont pu donner lieu à des productions culturelles par-delà les barrières linguistiques et géographiques.
Par exemple ?
Eh ben, par exemple, je vais faire référence à Michel Fouché, qui a fait des cartes assez intéressantes dans un bouquin qui s'appelle Fragments d'Europe, où il montre justement des influences comme l'art baroque, par exemple. Je te sauve bien, là, non ? non, mais c'est vrai que quand on regarde les cartes de Fouché, elles sont assez éclairantes, parce qu'on voit qu'il y a de grands moments historiques qui se sont diffusés à toute l'Europe, on va dire l'Europe continentale. Donc effectivement, Fouché parle de l'art baroque, les campagnes, les monastères cisterciens aussi, qui se sont... qui se sont largement développés. Mais pour revenir à cette question de la culture, ce qui est finalement logique, c'est que c'est à la fois un facteur d'unification à cause de ces grandes influences, mais c'est aussi un facteur de division, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des cultures nationales, que l'Europe, c'est le continent qui a le plus de frontières au monde, qui a en plus eu des recompositions incessantes de ces frontières. Ça, des agrégatifs ont beaucoup vu, donc je leur dédie ce petit passage. Et finalement, bah, créer une culture européenne, bah, c'est s'en remettre à ces grandes tendances, mais il faut aussi prendre en compte l'autre côté de la balance qui sont les influences nationales qui ont une grande importance. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand vous parliez d'émotions européennes, je ne sais pas si beaucoup de gens s'y retrouvent. Je me demande si l'Europe, la Commune européenne, même au sens culturel du terme, n'est pas beaucoup plus un construit qu'une émotion qui s'appréhende comme ça. Juste un dernier truc, c'est cette idée en même temps, voilà, que pour montrer l'ambiguïté de la chose, c'est qu'on fait aussi appel à d'anciens éléments pour renouer le tout. Après, il reste à savoir si ça marche. Par exemple, l'Europe centrale, il y a le concept de Mittel Europa, donc c'est en allemand, donc je le prononce très mal parce que je n'ai jamais fait d'allemand.
Mittel Europa.
Merci. Et ça sert par exemple à construire un espèce de discours pour justifier, par exemple en Allemagne, la connexion entre le Rhin et le Danube et tenter de recréer un axe transeuropéen qui unifierait pour le commerce, pour les échanges, l'unité européenne en s'appuyant sur la culture. Après, reste à savoir si ça traversera les frontières mieux que Schengen.
Bah, enfin, je pense en fait que construction et émotion ne sont pas forcément antagonistes. Tout à l'heure, je disais en effet qu'on ne cultive pas assez finalement le sentiment ou l'émotion européenne. C'était justement pour souligner qu'il y a trop de construits dans la façon dont on considère l'Europe et le fait ou la possibilité d'être européen. C'est dommage parce que, en effet, comme tu disais très bien, les sentiments ou les émotions ou pulsions que l'on peut ressentir quand on regarde notre équipe nationale jouer un match, quel qu'il soit, de foot ou autre, on ne le retrouverait peut-être pas lorsqu'on considérerait une équipe européenne, s'il en existait, par exemple. Et c'est dommage. En même temps, du coup, ça suppose qu'il y a une forme d'antagonisme entre construction et émotion. Je pose la question, je ne sais pas comment y répondre. Est-ce que c'est si vrai? Parce que par exemple, tu soulignais le fait que pour la Grèce, on a ressorti d'anciens éléments pour construire la langue. On pourrait également souligner plein d'autres pays, et pas seulement en Europe, qui ont créé leurs sentiments et leur sentiment de nation ou d'être une nation à partir de construits. Ce qui me pousse à dire qu'il n'y a pas forcément d'antagonisme, premièrement.
Non, justement, c'est pour ça qu'il y a de l'espoir aussi.
Mais en même temps, je dirais que finalement, les constructions sont toujours fondées sur l'émotion. La Turquie s'est construite sur un moment de crise.
Je veux bien, mais la politique aussi. Ça, faut pas oublier que pour l'instant, ce qui unit l'Europe, ce sont des constructions politiques qui sont bien aidées par l'économique, mais que maintenant, l'évolution, elle est aux mains de nos politiques. Et alors, c'est très, très marrant de comparer ce qui s'est passé entre les deux forums Libé, parce que j'ai fait celui de l'année d'avant. Et quand on interrogeait les politiques sur le sujet, c'était « oui, il faut une Europe, une fédération d'États-nations ». Alors ils disaient « non, c'est fini le fédéralisme à la papa ». C'était une expression de Pierre Moscovici pour dire qu'il fallait rénover le fédéralisme, mais en même temps en gardant toutes les prérogatives du côté national, pas de transfert de souveraineté. Et puis cette année, on a vu Viviane Reding et Jean-Pierre Jouyet, bon, qui sont aussi des Européens convaincus, tenir tenir un discours un peu différent, bon, qui consistait à dire que finalement la crise actuelle était était la faute des États qui n'avaient pas géré leur endettement. Et que finalement, les transferts de souveraineté s'imposaient probablement. Et alors, du coup, je me dis que peut-être la construction européenne, l'unité, tout ce qu'on dit depuis le début, elle repose sur un gouvernement européen, en tout cas sur un transfert de souveraineté, et le fait de voir apparaître une chose politique européenne.
Oui, moi, je veux quand même répondre à ta question de tout à l'heure. Je me suis souvenu d'un exemple d'abord. Oui, Umberto Eco a donné un exemple très court, rappelant que l'anglais Hume avait réveillé l'allemand Kant de son sommeil dogmatique. C'était un des exemples de cette richesse de la culture européenne.
Ça nous aurait manqué si tu ne l'avais pas rappelé. Donc.
Et pour rebondir sur ce dont il est question, à savoir finalement cette idée d'une opposition, ou du moins d'une articulation entre émotion et construction, je crois que les sciences humaines ont produit un discours sur cette question, notamment dans les années 80 et 90. Alors, sciences sociales pour l'historien Eric Hobsbawm, qui a écrit observant la montée des nationalismes dans les années 1990, mais aussi Dominique Schnapper, il me semble, sur la construction sociale de l'État-nation. Et finalement, l'argument global de ces recherches est de dire qu'il y a la production de mythes, l'invention d'un passé, l'invention d'une unité qui recouvre en fait une grande diversité pour la construction d'un État-nation et la justification d'un pouvoir centralisé et monopolisé.
Et en même temps, aujourd'hui, et c'était la conclusion de la conférence « L'Européen existe-t-il ?», on a quand même l'impression que le processus à l'œuvre dans l'Europe, c'est un essoufflement de cette idée de l'Europe et de cette construction européenne, et qu'on va de moins en moins vers soit le fédéralisme à papa, soit le nouveau fédéralisme prôné par Moscovici, si j'ai bien compris, et que si on reprend les chiffres du début, on voit bien les 90%, même si c'est un peu vague, on l'a dit, ça montre bien cette idée d'essoufflement de l'esprit européen. Alors pourquoi aujourd'hui on a cette impression que l'Europe elle fait plus rêver et que l'Europe elle n'existe pas? Comment on peut expliquer cet essoufflement?
Je monopolise un peu la parole, mais c'est une manière de rebondir encore une fois sur la conférence « La culture peut-elle donner un sens à l'Europe ?» Pour être concret, il me semble que la culture européenne donne un sens en fait à cette entité, mais qu'elle n'est absolument pas médiatisée, ou du moins sous-médiatisée. Par exemple, la chaîne Arte n'a pas été évoquée lors de cette conférence. Il me semble pourtant que c'est une initiative essentielle pour montrer à la fois que cela existe et que, aussi, comme je le soulignais tout à l'heure, ça concerne, pour le coup, moins de 10% des Européens, que c'est extrêmement situé, je l'ai déjà dit. Et je pense qu'il aurait été intéressant d'avoir, dans cette conférence, une vraie réflexion sur la manière dont, justement, on pouvait fédérer cette Europe à travers des contenus culturels, identitaires, et éventuellement... Mais je pense que le politique et l'économique suivraient. Capable de fédérer les parties de l'Europe et capable de justement transmettre un sentiment d'appartenance à l'Europe.
Oui, la germaniste que je suis ne peut que regretter en effet la sous-médiatisation, n'est-ce pas, de Arte, et surtout la façon dont on a de dénigrer cette chaîne, par ailleurs très intéressante, aussi bien dans son fonctionnement que dans ses diffusions. Cependant, pour répondre simplement à la question de Thomas, en ce qui concerne une forme d'essoufflement, sinon d'épuisement de l'Europe, de la possibilité d'être européen ou du sentiment d'être européen, est-ce qu'il ne serait pas intéressant un petit peu de prendre le constat à rebours et de dire que l'essoufflement tel qu'il apparaît aujourd'hui n'est en fait que le symptôme de quelque chose de peut-être plus profond et de plus essentiel, à savoir finalement une forme de passage à l'âge adulte de l'Union européenne et des Européens. C'est-à-dire qu'en effet, vous l'avez souligné, la construction de l'Union européenne et du projet européen, non seulement au lendemain de la guerre, mais même depuis Kant et son projet de paix perpétuelle ou avant même, a été portée par cet idéal de paix et peut-être de démocratie, et en tout cas une forme de beauté et d'idéalisme qui n'est pas à récuser, mais qui aujourd'hui tombe un peu en désuétude parce que les crises font qu'on va de déception en déception, certes, mais aussi tout simplement parce qu'il faut devenir plus pragmatique et aller avec le monde tel qu'il avance. Donc finalement, je dirais que l'épuisement, c'est peut-être tout simplement une forme d'habituation, de prise d'habitude qui fait qu'on devient plus raisonnable aussi.
Donc un essoufflement normal.
Voilà.
Moi, je ne suis pas sûr que l'essoufflement il soit dans la culture ou dans les mentalités. Je pense que les habitants des différents pays de l'Europe, ils se sentent européens comme univers de référence et comme espace de pratique. Je suis désolé, je vais repartir une fois de plus sur la Roumanie, mais c'est un endroit que je connais un petit peu pour y avoir passé quelques semaines. Mais les Roumains sont admiratifs de la France, je crois qu'on peut le dire. Ils suivent beaucoup ce qui se passe. Il y a une amitié franco-roumaine ancienne qu'ils actualisent beaucoup plus de leur côté que nous ne le faisons du nôtre. Et donc, il y a pour beaucoup d'Européens, je pense, cet horizon européen-là. Après, les exemples aussi, beaucoup plus d'un point de vue des pratiques des gens, du point de vue des pratiques, on a Erasmus, qui est quand même l'un des programmes européens qui a le mieux fonctionné, qui fait qu'il y a des générations d'étudiants qui, justement, rencontrent des gens de tout le continent.
Pour les échanges sexuels, a dit Umberto Eco pendant la conférence. Erasmus, programme d'échanges sexuels à 80%.
Mais pas que. Mais pas que. Je peux en témoigner. mais aussi, par exemple, si on prend les pratiques des Européens, pas sexuelles, mais les pratiques de travail, on a beaucoup d'Européens d'Europe.
On vous le promet une autre fois.
Beaucoup d'Européens d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale qui viennent travailler, qui font les fameux circuits migratoires saisonniers, qui vont travailler en France, en Espagne. Bref, l'espace européen est vraiment un espace de pratique grâce au visa, grâce à l'espace Schengen. Et je crois, encore une fois, que l'essoufflement, il vient des problèmes économiques que connaît l'Europe, qui freinent justement les mobilités spontanées des Européens. Et donc, ce sont, à mon avis, les difficultés économiques qui provoquent cette frilosité et le repli nationaliste. Et comme le politique, jusqu'ici, ne s'est pas beaucoup investi pour construire les institutions européennes, voilà où est l'essoufflement.
Oui, justement, sur la question de l'essoufflement, j'ai l'impression qu'on est arrivé avec la crise actuelle devant un peu comme au sortir d'un rêve. C'est-à-dire que là, maintenant, je pense les Européens sont confrontés à tous les problèmes qui ont été la carence du politique face à l'économie, etc., en Europe particulièrement, et que devant cette prise de conscience, soit les Européens vont avoir le sentiment de devoir se replier, ce qui semble se passer, soit il va falloir prendre conscience que l'Europe doit s'organiser comme une sorte de fédération, pourquoi pas, alors à papa ou pas, je ne sais pas. Mais je pense qu'effectivement, la crise, elle révèle qu'on est arrivé à un moment où on ne va plus pouvoir revenir en arrière, où soit il va falloir se désengager politiquement, soit sauter le pas fédéral.
Donc, est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'il n'y a plus personne pour porter l'idée de l'Europe et justement pour être ce leader charismatique qui entraînerait les foules et qui donnerait à rêver l'Europe?
Alors c'est vrai que, du coup, du point de vue de la culture, un intellectuel européen qui serait un peu...
Victor Hugo.
Ouais, non mais vivant, Victor Hugo, ouais, mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de symbole actuel européen.
Georges Sandrin, mais il est mort en juin dernier.
Y a aussi le fait que, pour reprendre l'exemple des médias, les médias parlent très peu d'Europe. C'est mon sentiment.
Et quand ils en parlent, ils en parlent toujours de la même façon.
Regardez un journal télévisé, les actualités de l'Union européenne, du Parlement européen.
France de Pâté F1, on précise.
Ça, après, ça. Transistor apolitique. Chacun fait ce qu'il veut.
Service public, quand même.
Mais c'est vrai qu'on entend assez peu parler de l'actualité des institutions européennes. On entend vaguement parler de culture européenne.
Le président, celui qui théoriquement est censé représenter l'Europe, donc Herman Van Rompuy, on ne le voit jamais. Il a été plus ou moins mis là parce que tout le monde y voyait son intérêt, parce qu'on savait qu'il serait quelqu'un du consensus, qui n'allait pas porter un message au devant des autres, etc. Donc on est dans une Europe qui ne veut pas s'assumer ou qui ne veut pas laisser quelqu'un porter un projet pour elle.
Et puis même les parlementaires européens, au moment des élections européennes, rappelons-nous ce qui a été dit de Rachida Dati, qui était puni en étant envoyé au Parlement. C'est quand même révélateur de la situation.
Alors juste pour finir, on va évoquer une dernière conférence dont on n'a pas encore parlé, qui réunissait alors la très sympathique Viviane Reding et Jean-Pierre Jouyet sur la question de l'avenir de l'Europe.
Oui, alors il dit ça parce qu'elle nous a refusé une interview, voilà.
Oui, mais avec l'art et la manière de le faire.
Rageux.
Oui, ben j'assume. Alors, que doit faire justement l'Europe au moment où, pour paraphraser Nicolas II, on le fait jamais assez, l'homme malade de l'Europe, en fait, ça serait l'Europe elle-même. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On en a déjà un peu parlé. Est-ce qu'il faut aller vers plus de fédéralisme? C'est ça l'avenir de l'Europe à plus ou moins long terme, vers une Europe supranationale? Ou alors, est-ce qu'on va arriver à une Europe à deux vitesses, un cœur européen moteur et puis une périphérie européenne mal intégrée, ou carrément sortir de l'Europe? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en campagne présidentielle, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, et tous les candidats ont un petit peu leur réponse à ça. il y a certains candidats qui veulent sortir de l'euro et de l'Europe, ça c'est plutôt Marine Le Pen. Il y en a qui décident de rester un petit peu dans l'attente et de continuer vers le libre-échange européen, ça c'est plus l'UMP, si on simplifie à grands traits. Il y en a qui veulent faire une nouvelle Europe, faire émerger une nouvelle Europe, ça c'est plus le front de gauche qui veut redonner des nouveaux statuts à la BCE, faire une Europe de la solidarité, ou encore c'est ceux qui veulent aller vers plus d'Europe et qui parlent, eux, de fédéralisme. Alors, pas, on aura compris, ça c'est les Verts et le Parti Socialiste. Alors, pour vous, c'est quoi justement l'avenir de l'Europe? Est-ce que c'est dans toutes ces propositions, sans forcément vous afficher politiquement, on a, c'est pas ça que je demande, hein. Je ne veux pas te dire les Verts, c'est les meilleurs.
Moi, mis à part le fait que je réclame la sortie de l'euro et un protectionnisme extrêmement marqué à l'échelle nationale, vous l'aurez tous remarqué. Non, je suis pas sûr qu'il y ait nécessairement une opposition entre un fédéralisme pur et dur et une Europe éclatée. L'idée d'une Europe à plusieurs vitesses, on peut difficilement s'en passer. Parce que l'Europe est encore en train de se construire. Pensons aux Balkans qui ne sont pas encore entrés dans l'Union et qui suivent un processus qui, par étapes, devrait normalement permettre leur intégration. Pensons aussi à la santé économique des États qui présentent des disparités qui ne permettent pas de les intégrer du jour au lendemain à une union économique et monétaire. Donc je pense que cette idée d'une Europe à plusieurs vitesses, elle n'est pas du tout incompatible avec une construction européenne forte, avec des pays qui sont déjà bien intégrés, qui doivent jouer le rôle de moteur, entre parenthèses, sans suivre un modèle unique qui serait soit le modèle français, soit le modèle allemand, mais avec un petit peu plus de cohésion. Et puis ensuite, ceux qui sont déjà capables de s'intégrer politiquement, ceux qui sont capables de s'intégrer économiquement, ceux qui sont capables d'être candidats. Hein, rappelons que la Turquie a le statut de candidat, on l'oublie un peu souvent quand on parle des limites de l'Europe. Cette construction européenne, ses limites ne sont pas arrêtées, et donc l'idée de... Voilà, d'un espèce de modèle concentrique, disons, entre les plus intégrés, enfin avec des degrés d'intégration, me paraît pas du tout opposé à un modèle d'une Europe forte.
Donc en fait, tu dis, tu te fais l'écho de ce que disait Jacques Delors en son temps, et je suis désolé si tu aimes beaucoup Pierre Moscovici, mais il dirait que c'est du fédéralisme à papa là ce que tu fais.
je ne sais pas ce que dirait Pierre Moscovici. De toute façon, alors là, si, pour le coup, je développe vraiment, enfin, encore une fois, un point de vue personnel. À mon avis, il faut les transferts de souveraineté pour l'Europe, ce qui là tranche avec une espèce de fédération d'États qui n'en est pas une et qui, pour le coup, affirme un fédéralisme un peu plus marqué que celui de mes aïeux.
Très cher.
N'est-ce pas ? Du coup, la seule chose que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas unifier l'Europe du jour au lendemain. Il y a des éléments.
C'est ce que disait Jacques Delors, voilà. C'était pas forcément péjoratif dans ma bouche.
Ah non, mais je précisais simplement la réponse.
Enfin, ce qui est intéressant là, dans tout ce que vous dites finalement, c'est l'idée, c'est les discours et finalement les clichés qu'ils peuvent véhiculer. L'idée selon laquelle une Europe à plusieurs vitesses serait forcément quelque chose de négatif et répandu, parce qu'il y a là un tabou qu'il faut peut-être briser, qui consiste dans le fait de ne pas vouloir assumer qu'il y a différents états économiques, enfin différents niveaux économiques, différents niveaux sociaux, non seulement au sein de l'Union européenne ou de l'Europe, mais également au sein des États.
Puis on a intérêt à le faire par étapes. Quand on prend les négociations d'adhésion, les pays ont pu, alors pour les nouveaux États membres de 2004 et 2007, ils ont eu beaucoup moins de marge de manœuvre que les pays précédents. N'empêche qu'il y a eu des aménagements dans les conditions d'adhésion qui ont permis de prendre des mesures transitoires. Par exemple, en Roumanie, il y a eu un blocage du marché foncier qui fait qu'une entreprise étrangère de l'Europe ne peut pas venir acheter des terres et puis construire la grande exploitation agricole qui sera implantée là un peu ex nihilo et qui ne profitera pas à la Roumanie. Autrement dit, le gouvernement roumain a bloqué ça pour permettre d'assurer une transition qui permettra normalement d'ici quelques années de faire sauter ça et d'avoir un pays qui a lui-même développé des structures, pour l'exemple ici, d'industrie agroalimentaire. L'idée de négocier, de s'adapter aux situations, ça permet aussi que chaque pays ait un processus de transition qui facilitera ensuite l'adhésion et la cohésion, on peut l'espérer.
Alors juste deux mots pour répondre à ta question, Thomas. L'avenir de l'Europe, je pense quand même qu'on n'a pas abordé cette question, mais si on veut faire le saut d'une Europe politique, il faut quand même poser la question de la démocratie en Europe, à savoir est-ce que les institutions que nous avons laisse beaucoup de place au peuple. Moi, pour vous dire le fond de ma pensée, je pense que les institutions européennes actuelles sont une dictature ultralibérale qui ne dit pas son nom. Donc je pense qu'il faudrait vraiment. Le problème, c'est que comme ça a toujours été une construction qu'on a laissé faire par les dirigeants eux-mêmes de chaque État qui ont construit ça au fur et à mesure, il faudrait vraiment que les peuples construisent et se prononcent sur tout ça, parce que les robes politiques soient fortes, mais parce que les peuples en Europe aient une voix forte aussi qui s'exprime.
Eh bien, on va terminer sur cette idée de dictature européenne ultralibérale, bon, histoire de vous faire des petits cauchemars cette nuit. En tout cas, merci à vous tous d'avoir participé à cette table ronde.
Merci beaucoup.
Et merci à vous de l'avoir écouté. Alors, vous pouvez réécouter la première table ronde qui avait été réalisée au Forum Libération sur le thème des nouveaux médias, ainsi que toutes les interviews que nous avons réalisées donc, dans l'enceinte de l'Hôtel de Ville. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle table ronde. Ce sera sur la gauche. Et d'ici là, n'oubliez pas, gardez l'esprit critique. Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher.
Et on compte sur vous pour passer les 5000 écoutes mensuelles d'émission.
Oui. Merci à vous.